Les récoltes ont été mauvaises par endroits parce qu'il y a eu trop d'eau. Par rapport à la sécheresse, n'est-ce pas? C'est un moindre mal dans la mesure où cette quantité d'eau peut permettre à la nappe phréatique de se reconstituer.
Est-ce que du coup les populations sont mises en situation de plus grande difficulté alimentaire?
En effet, quand il s'agit de sécheresse comme au Tchad et au Niger, quand il s'agit également d'excès de pluie qui ravage tout, naturellement les populations en subissent les conséquences. Manque de quoi se nourrir, et c'est là que la solidarité est encore une fois de plus de mise.
Alors, est-ce que dans ce genre de contexte, la Fondation pour le Sahel s'occupe plutôt de projets pour le long terme ou est-ce qu'il y a aussi des actions d'urgence qui sont mises en place?
En matière de secours d'urgence, la Fondation Jean-Paul II n'intervient pas directement, mais de façon ponctuelle ou occasionnelle, parce qu'il y a les Caritas à la base qui gèrent ce genre de situation-là. Le travail de fond, c'est le long terme. Former les Sahéliens à s'outiller d'une meilleure expertise en matière de conservation de la nature, en matière d'agriculture, en matière de santé et d'élevage, pour justement des effets durables dans le temps.
Comment est-ce que vous vous y prenez?
D'abord, il y a une sensibilisation avec plusieurs partenaires. Par exemple, quand il s'agit du reboisement, on sensibilise les populations à l'importance de la couverture végétale. Ne pas procéder à des coupes abusives, détruire la nature. Il y a également l'aménagement des terres à part des digues anti-sels qui empêchent la remontée de la langue salée ou bien de la mer tout simplement, ou du désert, et permettent de faire des cultures qui donnent des rendements palpables, visibles au grand bonheur des Sahéliens.
Depuis que la fondation a été créée, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu quand même un changement dans les mentalités à l'égard de ce problème de la désertification?
En effet, les grands changements, c'est au niveau effectivement des mentalités. Les résultats sont là quand les Sahéliens ont constaté que leur investissement porte du fruit. Mais il y a également le fait que, étant ensemble, n'est-ce pas, à l'exception de toute considération d'ordre ethnique, d'ordre religieux, les Sahéliens apprennent à vivre ensemble et cela contribue à la paix. Et ça rejoint un peu la lettre du pape à l'occasion de la Journée mondiale de la paix de cette année. Et je vous assure que l'appel a été entendu.
Comment est-ce que la lutte contre la désertification, la protection de la nature peut devenir pour ces pays sahéliens un instrument de paix?
L'environnement, c'est vraiment notre lieu de vie. Si l'environnement est dégradé, les esprits sont aigris. Les conflits peuvent surgir, conflits autour de l'eau, conflits autour des terres, conflits autour de la forêt à exploiter, parce que quand un tel n'a pas suffisamment d'espace ou de moyens vraiment pour vivre et qu'il est obligé d'aller chercher un peu plus loin, il empiète sur le domaine de l'autre et puis ça cause des problèmes. Tandis que là, lorsque tous ces éléments sont en rendez-vous, tout un chacun peut à son niveau, exploiter de façon fructueuse ce qu'il a à sa disposition et la paix revient. Maintenant, le fait de se rendre compte que la nature est en train d'être dégradée, de reculer et qu'on mette les énergies ensemble, les volontés ensemble pour justement sauvegarder la nature, ça c'est déjà un élément de paix. Et si on arrive à vaincre justement ce phénomène menaçant, on retrouve l'environnement épanouissant, vital, qui permet à tout un chacun de vivre en paix.